l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Lannemezan 92.2.
Voilà, toujours un plaisir de vous retrouver ce lundi 29 septembre pour ce Présence Midi, avec toujours un grand plaisir également d'accueillir David Torchala. Bonjour David.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
J'espère que vous avez passé un excellent week-end.
Oh oui, pas trop mal.
Voilà, et on espère aussi que nos auditeurs ont passé aussi un excellent week-end, et on est vraiment très contents de les retrouver. Alors, au sommaire de ce magazine, bah, comme tous les lundis, on va parler de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, avec, je crois, un pèlerinage emblématique et peut-être le plus important de l'année.
Oui, c'est le pèlerinage du Rosaire, vous avez raison, c'est le plus grand pèlerinage
organisé en fait.
Voilà, exactement.
Ouais. Voilà, et vous nous donnerez les chiffres, vous nous donnerez bien sûr la thématique de cette année, les dates, voilà, tout ça dans quelques instants.
Je vous dis tout.
C'est la grande actualité du sanctuaire Notre-Dame
de Lourdes.
C'est vrai. Et puis nous, on parlera dans quelques instants, je serai avec Renaud de Belfond, qui va nous parler de la 16e édition du Salon du Livre Pyrénéen de Bagnères-de-Bigorre. Nous y serons d'ailleurs samedi prochain, en direct depuis le salon de 11h à 12h30. Ça se déroule donc à Bagnères-de-Bigorre. C'est les 4 et 5 octobre prochain, donc c'est vraiment le week-end prochain. Et on sera bien sûr avec Philippe Denis et Diego Rabal, très heureux de vous retrouver en direct de ce salon. Et puis, de passage à Lourdes, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, et si vous avez l'habitude d'écouter aussi le chapelet, c'est le père Charles Formerie qui sera l'invité donc de Mathias Terrier dans le magazine de passage à Lourdes. Voilà pour le sommaire de ce magazine dans quelques instants, juste le temps d'un jingle, et on parle bien sûr de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.
Présence dans la cité mariale 96.
Voilà l'actualité dans la cité mariale avec vous, David Torchala. Bien sûr, on parle du plus grand pèlerinage de l'année, c'est le pèlerinage du Rosaire.
Oui, le pèlerinage du Rosaire qui est amené par la famille dominicaine. Oh, il y a l'habitude d'organiser le pèlerinage à Lourdes, c'est le 117e. Oui. Donc c'est dire que l'organisation, elle est au top, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est une grande organisation. Ils sont 17 000 pèlerins inscrits à venir. Ils viennent de France, ils viennent de Suisse, ils viennent de Belgique et ils viennent aussi de l'Outre-mer. Beaucoup, beaucoup de pèlerins d'Outre-mer vont traverser les océans pour se retrouver à Lourdes. Ça commence mercredi jusqu'à samedi. Voilà, des grands jours de pèlerinage avec une météo qui s'annonce belle. Là aussi, j'ai l'impression que c'est historique. À chaque fois qu'il y a le pèlerinage du Rosaire, il y a toujours ciel bleu sur la cité mariale. C'est dire que c'est important parce que beaucoup de célébrations vont se passer en extérieur, sur la grande esplanade des processions, avec un podium qui entoure la statue de la Vierge couronnée, et avec aussi, ça c'est une nouveauté depuis l'année dernière, il renouvelle cette année une scène ouverte musicale au pied de la grande statue de la Vierge couronnée, pardon, cette scène musicale, parce que finalement on aime dire aussi que le Rosaire est une fête. C'est vrai que c'est une fête de la foi, une fête de l'entraide, une fête du partage, et donc tous les jeunes qui sont au sein du pèlerinage, qui ont envie de gratter un petit peu la guitare, de faire chanter alors entre les horaires de messe, bien évidemment, sûr. Et entre les célébrations, mais on pourront se donner au chant, à la musique, à la danse aussi, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment un air de fête qui va arriver sur Lourdes. 17 000 personnes, vous savez, c'est énorme en fait, hein, dans le même pèlerinage. Ce sont énormément de trains spéciaux qui sont spécialement affrétés pour le pèlerinage. C'est aussi voilà, une horde d'autobus, des avions, etc. C'est toute toute une ville en fait, hein, qui attend ce grand pèlerinage. On pense évidemment à tous les socioprofessionnels aussi qui auront toutes leurs chambres évidemment occupées par le pèlerinage. Et alors c'est également une présence forte de jeunes. Ils sont plus de 3000 à venir dans le cadre du pèlerinage du Rosaire. Beaucoup de jeunes scolaires, des lycéens, des collégiens, des primaires, hein, qui sont accompagnés souvent par leur établissement. Je pense notamment aux lycéens de la Cordère que nous allons avoir très proche de nous dans les services de la communication parce qu'ils éditent le journal du jour. En fait, ils ressuscitent le journal de la grotte. Ça, c'est l'ancien quotidien qui était édité au sanctuaire. Voilà, le temps du pèlerinage, 4 numéros. Donc, ils font le journal du jour. Et il sera ainsi distribué auprès des 3200 bénévoles qui forment le pèlerinage avec 200 religieux et religieuses. Et puis, notamment, 940 personnes malades qui sont en fauteuil, voilà, qui seront aussi reçues dans les accueils Notre-Dame et accueils Saint-Fray. 940 malades, tout est en grand dans le pèlerinage du Rosaire. Alors, ce qui caractérise ce pèlerinage à la différence des autres, c'est que certes, il y a les grandes célébrations en extérieur, les grandes processions, on sait que les dominicains prêchent avec vigueur, et d'ailleurs, ce sera le cardinal Vesco, l'archevêque d'Alger, qui prêchera cette année. Il connaît Lourdes, évidemment, c'est un habitué du pèlerinage du Rosaire, et puis on sait son dynamisme et son enthousiasme, donc on sait qu'il pourra ainsi porter les foules. Mais il y a aussi des conférences, c'est ça qui est vraiment la particularité du pèlerinage, des grandes célébrations et des grandes conférences. On attend notamment celle de Madame Acoutis, la maman de Carlo Acoutis. Elle est en ce moment même à Pau, elle arrive à Lourdes dans les jours à venir, elle était également à Toulouse. Elle fait un petit passage dans la région à l'occasion du pèlerinage du Rosaire, et donc elle nous parlera évidemment de son fils, hein, Carlo Acoutis, qui vient d'être canonisé il y a maintenant quelques jours. Elle parlera, elle dira les secrets de son fils, c'est ainsi qu'elle signe un livre. Donc ça, c'est une conférence qui est très 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 attendue. Il faut se dire que pour cette maman, maman d'un saint à, je ne sais pas quel âge elle a, mais peut-être 60 ans vu les photos, sa vie est évidemment bouleversée. On aura notamment aussi le cardinal Bustillo qui fera une grande conférence. Une société fracturée peut-elle survivre? Donc c'est un entretien plutôt avec le cardinal Bustillo, et ça se passera à l'église Sainte-Bernadette. On le sait, il vient de sortir un livre qui s'appelle Réparation, qui connaît un certain succès. On voit beaucoup le cardinal Bustillo en ce moment sur les plateaux de télévision, et donc il nous fera la grâce d'être là aussi pour pouvoir enseigner et partager avec tous les pèlerins du Rosaire. Il y a beaucoup de choses, vraiment il y a 3 jours avec beaucoup de conférences. On aura même un petit clin d'œil du ciel avec Sainte Thérèse de Lisieux, puisque le recteur de Lisieux, le père Emmanuel Schwab, sera présent le jour de la Sainte Thérèse, parce que c'est aussi une année d'anniversaire, ce sont les 100 ans de la canonisation de Sainte Thérèse. Donc voilà, le recteur de Lisieux vient rencontrer aussi celui de Lourdes, et donc la petite Thérèse rencontre Sainte Bernadette aussi. Donc c'est beaucoup de clins d'œil, beaucoup d'enseignements, beaucoup de fêtes. Donc une grande semaine pour Lourdes, vraiment une grande semaine.
Oui, exactement. Et puis, quand on a les chiffres que vous venez de dire, ça veut dire qu'ils auront plus de pèlerins que d'habitants à Lourdes, puisqu'ils seront 17 000 et que les habitants à Lourdes, on est à 13, 14 000 le long de l'année. Ah, donc, vous imaginez, ils seront plus nombreux que. Et ça aussi, c'est beau, ce pèlerinage. Vous l'avez dit, hein, beaucoup d'enseignements aussi, avec des conférences très, très, très intéressantes.
Et sans perdre non plus le sens de l'hospitalité, ouais, de l'entraide, notamment pour les personnes malades, âgées, fatiguées par la vie, à tous, donc ces hospitaliers, ces médecins, ces infirmières aussi qui sont là donc au service des malades. Il y a également les hôtesses, vous voyez, ce sont ces dames du Rosaire qui accueillent toutes les foules et se mettent au service des uns des autres pour indiquer les informations. Et il y a aussi les commissaires, vous savez, chaque pèlerinage a sa propre organisation, mais c'est marrant de pouvoir le partager. Les commissaires, ça c'est plutôt les hommes, mais je crois qu'ils s'ouvrent aussi aux dames, hein. Mais c'est plutôt le service d'ordre pour arriver à orchestrer les foules, hein, pour que les processions soient belles. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment la photo, venez faire la photo de la procession mariale du pèlerinage du Rosaire, parce que c'est une des plus belles de l'année, parce qu'elle est extrêmement bien formée. Il fait nuit maintenant très tôt, oui, donc on fait aussi de très belles photos. Et puis aussi, évidemment, une grande chorale, plus de 80 choristes, hein, qui forment la chorale du pèlerinage. Voilà, ils sont là, le Rosaire jeune, les enfants, et puis des sœurs et des frères des dominicains, ils sont aussi un certain nombre, je crois qu'ils sont plus de 200.
Voilà. Et, voilà. Ça débute mercredi. Hein.
Et ça débute mercredi jusqu'à samedi. Donc voilà, beaucoup de monde que nous attendons à Lourdes. Vraiment dans la joie de vivre tout cela ensemble et aussi avec nos amis du Jour du Seigneur, le CFRT. Vous savez, la messe le dimanche matin. Vous savez qu'ils retransmet le chapelet de Lourdes sur leur chaîne YouTube chaque jour également. Donc il y a aussi comme pour KTO Télévision, nous avons aussi un partenariat avec le Jour du Seigneur. Donc c'est aussi l'occasion de voir et de pouvoir aussi visionner dans des salles de projection tous les beaux documentaires aussi qui sont réalisés. Voilà, on peut le dire, hein, les Dominicains sont quand même les rois de la communication. on les sait bons prêcheurs et donc voilà, ils sont là aussi pour investir à travers leurs médias, à travers aussi leur maison d'édition, les éditions du CERF, puisque la librairie du sanctuaire aussi se met à l'heure de la fête et donc des grandes tentes sont installées là au moment où je vous parle devant la librairie pour accueillir un certain nombre de dédicaces avec tous ces auteurs.
Présence à Millau.
Voilà.
Non, pas mal. Voilà. Très bien. Vous me coupez la chic. Vous avez raison. J'ai été trop long, cher Philippe. Et sur le rosaire, j'ai toujours envie de parler.
Non, peut-être. Non. C'est vraiment l'ordinateur qui fait les siennes. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Toujours. Bon, ce sera le club de fin pour cette chronique.
Le club de fin.
Et vous en avez parlé avec beaucoup de passion. Voilà. Ce pèlerinage qui débute donc, on l'a dit, mercredi. Mais nous, on va parler d'une autre, un autre événement où Radio Présence est partenaire. C'est le salon du livre pyrénéen qui aura lieu également ce week-end, les 4 et 5 octobre. Et puis le samedi matin, on sera en direct de 11h à 12h30 dans ce beau salon qui parle de nos belles Pyrénées. Allez, on s'entretient tout de suite avec Renaud de Belfond. Merci David, à la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine.
Présence à Millau, 106.5.
Renaud de Belfond, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être présent aujourd'hui pour parler du 16e salon pyrénéen qui va se dérouler le 4 et 5 octobre prochain à Bagnères-de-Bigorre. Alors, vous êtes au Carépi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où c'est le Carépi?
Alors, le Carépi, c'est route d'école. Quand on est à Bagnères-de-Bigorre, on prend la route d'école, soit vers le Tourmalet ou l'Aspin, enfin voilà. Et juste à la sortie de Bagnères, c'est à gauche, c'est... voilà, et ça sera très bien indiqué. Enfin, c'est très facile à trouver. Honnêtement, il suffit juste de traverser de Bagnères quand on vient du nord du département.
On va, c'est la 16e édition, on va un peu rembobiner. On va prendre un petit peu quelques minutes pour reparler de la genèse de ce projet. Un salon du livre pyrénéen, donc consacré aux Pyrénées. Qu'est-ce qu'on peut y trouver et d'où il est né ce salon?
Ah, il est né de la volonté essentiellement de trois personnes. Stéphane Lévesque, qui était archéologue, un peu passionné de l'archéologie pyrénéenne. Silvio Brianti, qui était critique d'art, très passionné ça. Et le libraire de Bagnères, Marc Besson, qui a la librairie auprès de Pyrénées. Librairie passionnée, spécialisée dans le livre Nature et Pyrénéen et de montagne. Voilà, ça, c'est eux qui ont eu l'idée autour des années 2008, 2007, 2008, sachant que le premier salon a eu lieu en 2010.
En 2010, premier salon donc consacré vraiment aux Pyrénées. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut y trouver? On imagine qu'on ne trouve que des ouvrages consacrés à la montagne.
Ça dépend ce qu'on appelle la montagne. Non, si on ne trouve pas que des ouvrages consacrés à la montagne sportive ou le loisir.
Oui,
ou
on
comme
pourrait
ça.
Penser en à plus, l'escalade, la randonnée.
C'est vraiment l'idée, c'est que le livre pyrénéen, il est très large et il abordera tous les problèmes, toutes les questions qu'on peut imaginer. Donc ça peut être des livres qui vont aller vers des savoirs plus patrimoniaux ou plus naturalistes, ou au contraire des livres de fiction qui vont utiliser les Pyrénées comme fond de la fiction. Je pense à des polars ou des choses comme ça. Je pense à Céline Dangean, par exemple, qui utilise régulièrement les Pyrénées dans ses thrillers. Et ça peut être aussi des livres plus d'actualité ou sur la politique, sur le développement économique, social qu'on veut des Pyrénées aujourd'hui. Donc voilà, on essaye, ou des livres d'art et de photos, bien entendu. Voilà.
Alors, ce salon a évolué. Au départ, c'était sur 2 jours. Des auteurs venaient, des maisons d'édition venaient présenter leur ouvrage. Les gens circulaient, discutaient, échangeaient. Peut-être même certains faisaient l'acte d'acheter. Mais ce salon, au fur et à mesure des années, il s'est développé avec des propositions hors salon.
Oui, alors l'idée de l'association Binaros, c'est que le salon, c'est un gros moment, c'est ce qu'on fait le plus, mais qu'autour du salon, il faut faire vivre aussi cette idée de livre pyrénéen. Et donc, on fait des propositions qui sont juste autour du salon. Par exemple, on a une exposition avec la médiathèque de Bagnères-de-Bigorre à la médiathèque sur le dernier livre de Seb Caz, sur Chronique d'un monde à l'envers, sur les chauves-souris, qui est un livre BD, voilà. Et aussi d'autres propositions. Et puis on a aussi l'idée que lire, c'est un terme qu'on peut, on peut lire du paysage, on peut lire beaucoup de choses, on peut lire des traces dans la nature. Donc on peut élargir aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on essaye de fonctionner comme ça. C'est pour ça, par exemple, qu'après le salon, on fera lire et écrire, c'est lié. Il y aura le 13 octobre un atelier d'écriture avec Gaspard Chauvelot avant sa présentation. Non, c'est pas le 13, c'est le 17, je crois. Avec sa avant sa présentation, Tentative d'épuisement 3, qui aura lieu à Bagnères.
D'accord. Et donc, et effectivement, il y a plein de propositions autour du salon. Il y a un prix littéraire, hein, le prix Binaros.
Il y a quatre prix littéraires. Quatre prix du livre pyrénéen.
Voilà.
Et qui sont divisés par catégorie, donc c'est quand même des prix qui sont faits par un jury tout à fait indépendant de la structure, qui est composé de 9 personnes, qui se réunissent à partir en général de janvier jusqu'au mois d'août.
Et oui.
Donc qui ont eu cette année à peu près 70 livres à regarder. Je crois que le chiffre exact, c'est 72 ou quelque chose comme
à
ça.
À regarder, à lire peut-être.
Oui, non, mais oui. Quand je dis à parcourir, voilà le terme, à lire. Oui, non, mais voilà.
Il y a des images, parce que si vous avez besoin de gens, vous pouvez essayer des images, je viens.
Qui donne donc à la, in fine, 4 prix. Donc un sur la connaissance des Pyrénées, un prix connaissance, un prix littérature, un prix sur les livres pratiques, les guides, les choses comme ça, et un prix pour les autres livres qu'on n'arrive pas à classer là-dedans. Quoi. Mm-hmm.
Pour un auteur ou pour une maison d'édition, recevoir un prix, par exemple celui de Binaros, c'est quelque chose en plus pour lui?
Alors, en France, il y a effectivement beaucoup, beaucoup de prix. Il y en a plus de 2000, je crois. Le prix du Salon du Livre, nos prix sont dotés de 750 € pour l'auteur. C'est là qu'il commence à nous mettre dans une catégorie plus rare de prix, parce que là, on est dans quelques centaines de prix dotés. Voilà. Et effectivement, on essaye réellement de promouvoir après nous les prix. On fera une annonce. L'annonce des prix sera faite par une conférence de presse ouverte à tout le monde le 15 septembre à la maison de la région, de ma région, à Tarbes, l'après-midi à 14h. Et après, on envoie aussi, on crée une affiche avec les livres primés qu'on envoie aux librairies, dans le coin. Donc on essaie effectivement de faire que le prix ne soit pas que juste un moment pour l'auteur, que ça soit une vie du livre et une vie pour l'auteur. Voilà.
C'est la 16e édition. Hein. Comment se porte ce salon, hein? Est-ce que on s'essouffle? Est-ce qu'il y a toujours de la vitalité? Est-ce que les auteurs sont toujours présents? Est-ce que c'est compliqué de convaincre les gens de venir participer à ce salon? Je sais quand même que c'est un salon prisé et comme il y a du monde qui y vient, ben, les gens viennent venir.
Alors, côté, on a, en gros, on peut installer 80 exposants, à peu près, dans l'espace qu'on a. Donc, on refuse, tous les ans, on refuse du monde. D'accord. Voilà, on a encore refusé du monde cette année, parce qu'effectivement, on n'a pas fait, même cette année, on n'a même pas fait de rappel pour les inscriptions au mois de fin mai, début juin, pour dire il reste comme moi. On était déjà quasiment plein.
D'accord.
Donc pour dire ça, c'est pas vraiment complètement un problème. Même si au début, quand on lance les premiers tours, on se dit, ça répond pas vite, mais ça se remplit finalement bien. Pour l'association, je pense que ça, il y a quand même une bonne dynamique dans l'association, il y a du renouvellement de membres et tout ça, donc effectivement, ça, on a une cinquantaine de bénévoles pour installer autour du salon, donc voilà, c'est...
Il y a des bras, quoi.
Il y a des bras, ça roule bien. On a un bon soutien aussi, quand même, au moins technique, comme ça, des collectivités territoriales, que ce soit pour la commune de Bagnères, va nous chercher les grilles à droite, à gauche, dans tout le département, et nous les apporte, ce qui est quand même... une aide importante et une aide financière aussi quelque part, même si ça se traduit pas en chiffres, parce qu'effectivement c'est les employés qui y vont et tout un ensemble de choses comme ça. Et après on a quand même un public, en gros on a plus de 2000 visiteurs sur le salon sur les deux jours. Donc ça fait une manifestation sur Bagnères qui reste très importante, une des plus grosses manifestations culturelles de Bagnères.
De Bagnères, de Bigorre. Vous avez aussi donc les partenaires institutionnels, vous en avez parlé, bien sûr, il y a l'État, le ministère de la Culture, le département, la région, les communes. C'est important aussi, hein, ces partenariats-là, et de les nouer et de les conserver.
Oui, de les conserver, d'essayer de les amplifier. Oui. En ce moment, c'est très difficile. La culture, on le sait tous, prend plein de coups ici et là. Et il y a aussi tous les partenaires plus privés, quoi, je pense, comme à la Sofia ou des choses comme ça, c'est, qui nous aident beaucoup. Et après, les partenaires plus locaux sont quand même, même ouais. si c'est des petites aides financières, d'abord quand on les additionne, ça finit par faire des sommes. Et c'est très important parce que c'est aussi sur la diffusion, la connaissance du salon, c'est très important d'avoir des partenaires locaux à nos yeux.
Alors bien sûr, le programme, on peut le retrouver dans un petit fascicule que j'ai. Il est chargé, donc on a un petit peu de mal. Mais deux, trois points forts du salon. Qu'est-ce que vous mettriez en avant? Donc on rappelle, ça débute le 4 et ça finira donc le 5 octobre. C'est sur un week-end, c'est un samedi dimanche. Des moments forts pour vous. Il y a la remise des prix, bien sûr. Ça c'est
Il y a la remise des prix qui a lieu le samedi 4 à partir de 18h15. Alors on a avancé d'un quart d'heure là. La remise des prix, parce que l'école d'Asté va faire une petite représentation théâtrale qu'elle a créée l'an dernier sur l'immigration, justement. Donc voilà, c'est prévu comme ça. Et ça risque d'être un moment fort, effectivement. Après, moi j'ai du mal à faire un choix entre toutes les rencontres qu'il y a pour vous dire c'est celle-là qu'il faut aller. Alors il y a plusieurs rencontres autour du thème des migrations, donc ou végétales ou des migrations plus contemporaines aujourd'hui, enfin 19e et aujourd'hui, et dans les deux sens, c'est-à-dire des gens qui arrivent par les Pyrénées ou qui traversent les Pyrénées, mais aussi les Pyrénées qui sont partis dans le monde.
Oui.
Voilà. Et il y a quand même quelque chose aussi... sur ce thème-là, il y a le film Joseph qu'il faut aller voir le samedi soir au cinéma Le Maintenant. Enfin, ça, c'est vraiment, je pense, ça peut être un moment très fort aussi qui est... à côté du salon, mais qui fait partie du salon. Et la rencontre avec... Ce film, Joseph, c'est le film sur Joseph Bartoli, qui était dessinateur, peintre, qui a été interné dans les camps de Rivesaltes et de Bram, si je me souviens bien, et qui a aussi beaucoup dessiné sur son internement à l'époque, mais après a eu une carrière de peintre aux Amériques, voilà. Importante. Et donc ce film, qui est un film d'animation, retrace sa vie.
D'accord.
Et qui est un superbe film, honnêtement. Voilà. Et l'autre moment qui peut être intéressant, c'est pour deux raisons. D'abord, Pyrénées Magazine, c'est le moment avec Pyrénées Magazine, qui est passé en société coopérative d'intérêt collectif depuis peu, donc qui est indépendant de Milan maintenant depuis peu. Donc c'est vraiment un changement. Et on fait quelque chose. En 1999, ils avaient fait un numéro Pyrénées Destination 2050, un numéro de futurologie, ou à Lourdes, par exemple, il y avait des mosquées qui se mettaient en place.
Ah oui, il y a de l'imagination, cet homme.
Lourdes était œcuménique.
Mais il est déjà avec des mosquées.
Voilà.
Ah, d'accord.
Voilà. Et donc on fait un petit point avec trois chercheurs sur, on est en 2025, on est 25 ans après ce numéro, et on fait un point, voir
un point d'état entre ce qui avait été vu ou visionné. Il reste encore 25 ans, remarquez.
Ouais. Non, mais il y avait des choses qui étaient construites de manière très très sérieuse, et d'autres qui étaient vraiment des projets comme ça, ouais, j'ai envie de dire un peu provocants ou comme ça, mais
ils viendront faire un point d'étape sur ce numéro un peu spécial qui avait été fait il y a 25 ans. D'accord. Voilà. C'est étonnant.
Et ce point d'étape sera illustré par Léa Castor, qui a créé l'affiche du salon, qui va faire la facilitatrice graphique, c'est comme ça qu'on dit, qui va dessiner en direct.
On invitera donc les gens à avoir tous les renseignements, point par point, les horaires, toutes vos propositions sur un site internet, qui est le site du salon.
Du livre pyrénéen.
Voilà, on tape salon du livre pyrénéen sur un moteur de recherche, et bien effectivement, on trouve de suite votre site et toutes les propositions. Deux mots pour terminer, l'affiche est toujours magnifique, et le thème. Comment on choisit chaque année un thème? Là, cette année, donc, ce sera la migration.
Comment on choisit un thème? On a des réunions de programmation et on réfléchit. Et on se dit, tiens, ça pourrait être bien, il y a eu tel livre qui est passé là, telle année. L'an dernier, c'est vrai qu'on avait primé le livre de Manuela Parra. Sur des femmes et des frontières et des femmes, donc qui parlait un peu des migrations, puis c'est vrai que c'est un thème d'actualité, enfin d'actualité ancienne, parce que ça fait des décennies qu'on parle de migration. Et donc on s'est dit oui, les Pyrénées. Et puis qu'on parlait peu des migrations pyrénéennes, enfin des Pyrénéens vers, notamment vers les Amériques. Donc on s'est dit ça permet de.
Oui, on a toujours voilà. Aujourd'hui cette.
On passe migration.
On passe toujours les gens qui viennent ici, voilà. mais pas nous qui sommes partis ailleurs. Voilà.
Donc on s'est dit ça peut être en employant un terme migration plus large. On peut parler de beaucoup plus de choses que, voilà, que le simple problème actuel.
Et la migration,
et le remettre dans de la profondeur historique.
Voilà. Et la migration n'est pas que des migrations de population, c'est aussi, vous l'avez dit, les plantes.
Les plantes et les animaux.
Les animaux aussi.
Bientôt, on va avoir beaucoup d'animaux migrés. Là. Ça a commencé apparemment, les grues, je crois les avoir entendues déjà.
Et elles commencent à partir déjà. Aïe, aïe, aïe. Ça commence à sentir l'automne et l'hiver qui arrivent. On rappelle, c'est le 16e édition du 16e, salon ouais. Du livre pyrénéen, 4 et 5 octobre, 16e édition, qui aura pour thème donc migration, c'est à Bagnères-de-Bigorre, au Carépi, vous nous avez un peu expliqué, c'est la sortie de Bagnères vers la route d'école, c'est gratuit.
C'est gratuit, l'entrée est gratuite.
Oui. On peut, voilà,
l'entrée au salon est gratuite. Les animations proposées sur site sont toutes gratuites et les rencontres, les.
Pas le film quand même, si.
Et le film, non, le non. film
il y
est en
maintenant, participation.
Il est au tarif du cinéma
du
habituel.
Du cinéma habituel, voilà. D'accord. Voilà, donc l'entrée est gratuite. On peut passer, je pense qu'on peut se restaurer sur place.
Hein. On peut se restaurer sur place, sandwich ou alors au restaurant à côté. Et puis Bagnères n'est pas très loin, à pied, c'est quoi? C'est 5-10 minutes.
Ah, puis si on vient au salon Pyrénées, on peut faire un peu de marche. Hein,
bien entendu.
c'est le minimum. voilà, donc ce salon, nous, on est partenaires depuis quelques années avec vous. On a cette émission de radio.
Depuis 10 ans.
On prend toujours plaisir à vous retrouver au sein même et en direct de votre salon, où on reçoit d'ailleurs les auteurs qui ont reçu les 4 prix Vinaros.
Voilà.
Merci beaucoup, Renaud de Belfond.
Hein,
on rappelle donc la 16e édition du Salon du Livre Pyrénéen 4 et 5 octobre prochain, qui a pour thème la migration et qui se déroule donc à Bagnères-de-Bigorre, au Carépi. L'ouverture le matin, c'est.
À partir de 10h.
10h.
Et la fermeture, c'est 18h le dimanche et 19h le samedi.
Le samedi. Merci beaucoup. Et il n'y a pas d'interruption. Hein,
c'est ouvert en continu toute la journée.
Voilà. Merci beaucoup Renaud de Belfond.
Merci beaucoup.
Et puis à très bientôt donc au salon pour l'émission.
L'émission.
Nous serons ensemble avec Philippe Noni et Diego Rabal de 11h à 12h30, donc le samedi 4 octobre.
Merci.
Radio Présence à Argelès-Gazost 91.9.
Très bon salon, effectivement, qui nous permet de parler de nos belles Pyrénées. Tout de suite, on fait un point sur l'actualité. Pour cela, on retrouve notre talentueux Éric Leclerc, que je salue, bien sûr, pour ce lundi 29 septembre. Bonjour Éric.
Bonjour, mouvement de mécontentement chez les sapeurs-pompiers volontaires. Durant une heure samedi, ils ont posé casque, beeper et tenue pour protester contre la remise en cause du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance, le gel et le montant des indemnités horaires depuis 2 ans et la non-parution du décret relatif à la bonification de trimestre pour les volontaires ne pouvant être accepté. Exercice de sécurité civile demain à Escale 15 près de Toulouse, un exercice destiné à tester le plan particulier d'intervention de l'entreprise Gache Chimie, établissement classé Céveso, seuil haut. Celui-ci a pour but de tester l'organisation des secours, la procédure d'éclenchement du plan et la mise en place des structures de commandement en cas d'accident industriel, notamment le centre opérationnel départemental. La sirène du site devrait résonner entre 8h et 9h le matin dans le cadre de cet exercice. Cette sirène ne sonnera pas pour signaler la fin d'exercice. L'outil FR Alert sera également utilisé. Il s'agit d'un système de notification en temps réel sur téléphone portable. Dans le cadre de l'exercice, aucune action n'est attendue de la part de la population. Un léger mieux pour l'emploi porté par le rebond du tourisme en Occitanie au deuxième trimestre selon une note de l'INSEE. L'emploi salarié augmente de 0,3% après s'être stabilisé le trimestre précédent. L'emploi régional dans les services marchands hors intérim repart à la hausse, en particulier sous l'effet d'un net rebond dans l'hébergement et la restauration. En effet, la fréquentation touristique régionale reprend, portée par les touristes en provenance de l'étranger. En revanche, l'emploi stagne de nouveau dans l'industrie et continue de reculer dans la construction. Dans la filière aérospatiale, l'emploi se stabilise, les créations dans le segment industriel venant compenser les pertes dans les activités tertiaires. L'emploi se reprend légèrement dans l'intérim après 5 trimestres de baisse. Le taux de chômage reste stable au niveau national comme en Occitanie, où il s'établit à 8,9% de la population active en moyenne sur le deuxième trimestre 2025. Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la commune de Castelnau d'Estrefonds, Haute-Garonne, pour le phénomène inondation et coulée de boue. Les personnes sinistrées qui n'auraient pas déclaré leur sinistre disposent d'un délai de 30 jours à compter du 26 septembre pour présenter leur dossier auprès de leur assureur. La Saint-Gorose, samedi 4 octobre à Saint-Gaudens, pour soutenir les patients en cours de traitement de chimiothérapie et la recherche sur les cancers féminins. Au programme, une marche de 8 km et 2 trails urbains, l'un de 5 km et un autre de 10 km. L'an passé, 2171 personnes avaient participé à la Saint-Gorose. Pour vous inscrire, allez sur pyrenechrono.fr. Nouveau 19, la nouvelle chaîne de télévision poursuit son tour de France à la rencontre des habitants et fera étape demain à Toulouse. Le kiosque 19, au cœur des territoires, prendra place au marché Victor Hugo. Au travers de cette initiative, Nouveau 19 va au plus près de ses publics pour recueillir leurs premières impressions, leurs avis et leurs envies. Tout au long de la journée, de 8h à 14h, le kiosque 19 s'installera au cœur du marché Victor Hugo, où les visiteurs pourront profiter d'animations conviviales.
Merci beaucoup Eric Leclerc, voilà pour l'actualité à la mi-journée. Bien sûr, l'actualité va revenir sur Présence, ce sera 13h pour l'information, cette fois-ci nationale et internationale, avec la rédaction française de Radio Vatican. Nous allons peut-être, vous allez découvrir un chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Il anime de temps en temps la prière du chapelet à 15h30. C'est le père Charles Formery, il est l'invité de Mathias Terrier dans De Passage à Lourdes.
Présence. De Passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir le père Charles Formery. Bonjour père.
Bonjour Mathias.
Vous êtes chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Merci à votre diocèse de vous avoir envoyé, votre évêque, d'avoir accepté.
Je lui dis merci moi aussi.
De venir 3 ans à Lourdes. Parce que ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que quand on est chapelain en mission au sein du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, la plupart du temps, on est envoyé, on vient de quelque part, évidemment, on n'est pas incardiné, on n'est pas attaché exclusivement au sanctuaire de Lourdes, mais on vient de quelque part, ce qui est votre cas. Vous venez du diocèse de Versailles. Alors nous allons raconter, vous allez, j'espère, nous raconter l'histoire de votre vocation. Pourquoi vous êtes devenu prêtre? Comment vous avez tenu aussi dans cette mission qui n'est pas toujours simple? Nous raconterons cette histoire dans la deuxième partie de cette émission. Mais auparavant, j'avais envie de vous demander comment ça va à Lourdes. Comment vous vivez votre vie de prêtre au sein du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes?
Pour le mieux, je suis ravi. Je rends grâce vraiment de pouvoir être ici. Alors, ce qu'on me demande avant tout, c'est de confesser. Donc, je passe le plus clair de mon temps dans cette chapelle des confessions, voilà, qui est l'ancien hospice. Alors, ça dépend un petit peu des moments de l'année, mais en ce moment, on a beaucoup de jeunes prêtres de Paris qui sont venus nous aider, et puis d'autres diocèses aussi, à confesser. Donc, on n'est pas si pris que cela, mais je dirais que on nous demande de nous tenir environ 3 heures par jour au confessionnal. Voilà, on peut après y aller tant qu'on veut. Et puis, on me demande aussi, pour ma joie, de faire quelques conférences. Donc, c'est à la demande des diocèses. Donc sur différents thèmes, ça peut être voilà, la personnalité de Bernadette, qu'est-ce qu'un miracle, des choses comme ça. Voilà, donc à ce moment-là, je me rends disponible pour 1 heure et je suis ravi de pouvoir faire ça. Et puis il y a aussi quelques congrégations religieuses alentour qui me font venir et je peux faire un peu de cathé et j'en suis ravi. Donc voilà, mon travail c'est les confessions, l'enseignement et puis bien sûr la messe. Donc, dans les chapelles du sanctuaire, dans les églises du sanctuaire, mais aussi dans les communautés cloîtrées féminines environnantes, donc le Carmel, la Chartreuse de Saint-Pé, de Bigorre, et la Visitation surtout. Et voilà.
Ce sacrement de la confession a une résonance un peu particulière à Lourdes, du fait même du message de Lourdes. On n'en parle peut-être pas assez souvent, est un message de pénitence. Ce mot, d'ailleurs, aujourd'hui, peut-être reçu, peut-être de façon inexacte.
Oui, la Vierge Marie dit, à partir du 24 février, si je ne me trompe pas, pénitence, quoi. Son message est scandé par cela. Et Bernadette va pratiquer cette pénitence que Marie nous enjoint de faire. Donc le 25 février surtout. Donc vous savez, c'est là qu'elle découvre l'eau par laquelle beaucoup de malades vont guérir. Donc elle va vers le fond de la grotte, gratigne. C'est un verbe de Bernadette. Ça gratigne le sol au moment où à l'endroit où il touche le.
Ça c'est boueux à ce moment-là.
Où il touche le rocher. Oui, c'est. Ah, je sais pas trop, mais en tout cas, elle est obligée de gratter. Donc il devait y avoir une certaine dureté. Et une flaque apparaît, et puis elle en boit, devant s'y reprendre à quatre fois, tellement cette eau est dégoûtante. Elle est rougeâtre, d'après Laurentin. Et puis elle s'en barbouille le visage, et puis elle embrasse le sol. Elle mange de l'herbe qui est là, et ensuite, quand elle revient, elle dit cela, parce que c'est comme ça qu'elle appelait la Sainte Vierge. Elle ne savait pas que c'était la Sainte Vierge, encore qu'il lui apparaissait. Elle ne le saura qu'un mois plus tard. Cela m'a demandé d'aller boire à la source et de m'y laver. Et d'embrasser le sol et de manger de l'herbe par amour pour les pêcheurs et pour leur conversion. Et donc voilà, elle fait, pardon, je ne sais pas si je réponds à votre question.
Oui, oui. Et Père Charles, en fait, cette apparition-là, elle est à ce moment-là même pas du tout consensuelle. Enfin, même scandaleuse. Les gens, ils s'offusquent, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que cette petite souffreteuse qui se...
Alors elle passe pour
du visage qui mange de l'herbe.
Oui, oui. Alors c'est, on va mettre du temps à comprendre ce qui se passe. Effectivement, ce jour-là, elle n'apparaît pas glorieuse, parce qu'avant, jusqu'au 24 février, la gloire de Dieu rayonnait sur son visage, et donc elle voyait la Sainte Vierge, mais les gens, eux, avaient aussi une apparition, bénéficiaient d'une apparition qui était celle de la gloire de Dieu, dont rayonnait le visage de Bernadette. Et cette fois, le 25 février, Bernadette apparaît comme le serviteur souffrant du livre d'Isaïe, sans beauté ni éclat. Et beaucoup de sceptiques sont venus ce jour-là, il y a 500 personnes environ, beaucoup de sceptiques sont venus, vont être confortés dans leurs doutes, vont repartir très contents de ce qu'ils ont pu voir. Et Bernadette revient vers la foule, donc toute maculée de boue, quoi, elle doit avoir des filets de boue, je ne sais pas trop. Et sa tante et marraine Bernarde lui donnent une gifle et un mouchoir pour qu'elle se débarbouille. Donc on va mettre du temps à comprendre... Pourquoi est-ce que l'humiliation de Bernadette a-t-elle pu procurer la conversion des pécheurs? Alors je pense que c'est tout simplement pour cette raison, quand on s'humilie, on capte la grâce de Dieu, selon les paroles du Magnificat, voyez. Il s'est penché sur son humble servante, il s'est penché même sur l'humilité de sa servante, littéralement. Donc cette humilité de Bernadette attire la grâce sur elle, et dans le mystère de la communion des saints, cette grâce... va vers les pécheurs, vers les pauvres pécheurs dont elle fait partie, dont on fait tous partie. Donc elle fait un trajet, vous voyez, d'abord vertical, et puis horizontal dans le mystère de la communion des saints. Donc quand on prend la grâce, vous voyez, en s'humiliant, eh bien, elle ne se contente pas de nous habiter, cette grâce, mais elle se répand autour de nous. Et donc, voilà pourquoi la pénitence de Bernadette porte un fruit. Voilà.
Et donc les gens qui arrivent ici, les pèlerins, ont une recherche de consolation, arrivent avec aussi leurs bosses, leurs blessures, leurs doutes.
Oui,
vous les voyez arriver à la chapelle.
Complètement, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. D'ailleurs, tous ne sont pas chrétiens, tous ne sont pas baptisés. En fait, il y a des malades partout sur Terre, et donc chacun tente sa chance à Lourdes, vient trouver un réconfort près de Marie, près de Myriam, et donc on s'attache à les accueillir bien. Voilà, on essaie de faire comme fait Marie, de leur faire connaître un petit peu cette tendresse de Dieu qu'est Marie.
Ce qui peut faire sortir de la désespérance, du désespoir, c'est se sentir aimé. Infiniment.
Bien sûr, oui, bien sûr.
C'est ce qui est ressenti, non, d'une façon ou d'une autre.
Bien sûr, c'est ce que cherche le malade avant tout. Et d'ailleurs, c'est comme le disent nombre de médecins gériatres, celui qui souffre considérablement veut bien encore souffrir un peu du moment qu'il sent de l'amour par un côté. Il est prêt à ne pas vouloir mourir tout de suite si par une infirmière, par un membre de sa famille, il reçoit un petit peu d'affection. Parce que c'est l'amour qui guérit tout. Et donc cela, on le constate. Et c'est une joie de pouvoir essayer d'être bon. Voilà, on essaye.
Père Charles, on ne va pas entrer, bien sûr, dans la question de secret de confession, pas du tout, mais ça veut dire que pour le prêtre que vous êtes, il faut être infiniment délicat, quand même, dans la façon de recevoir.
Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr.
D'écouter, d'accompagner, et puis de délivrer le sacrement.
Oui, oui. Alors, cette délicatesse, elle nous vient de l'Esprit Saint, dont la Vierge Marie est épouse. Et je me souviens d'un vieux prêtre, quand j'ai confessé peu de temps après mon ordination ici à Lourdes, j'avais rencontré un vieux prêtre qui m'avait dit que avant chaque session de confession, il passait à la grotte dire un « Je vous salue Marie ». Voilà. C'est quelque chose que j'essaie de faire, de prier un « Je vous salue Marie » à chaque fois, juste avant d'exercer ce ministère. Marie, l'épouse de l'Esprit Saint, me donne, quoi j'espère, me donne cette tendresse pour les pécheurs, voilà, dont je fais partie. Et j'aime bien dire que il ne faut pas avoir peur de se confesser. Plus que vous direz en confession est gros et bizarre, plus le prêtre admirera votre humilité. Alors c'est pas pour ça qu'il faut faire des gros péchés, bien sûr, mais il faut savoir cela. Voilà, c'est le seul sentiment qui habite le cœur d'un prêtre un minimum proche du Christ. C'est celui de l'admiration devant l'humilité de celui qui s'accuse. Et bien sûr, il y a aussi ce sentiment de la joie de pouvoir enlever le carcan du péché qui pèse sur les épaules, qui pèse sur nos épaules, voilà.
Le message de Lourdes, c'est certes l'apparition du 25 février, mais c'est également celle du 25 mars. C'est ça aussi le message de Lourdes.
Oui.
Cette promesse incroyable, l'Immaculée Conception.
Oui, oui, oui. Oui, alors Marie, ce jour-là, va, à la demande de Bernadette, va décliner son identité d'Immaculée Conception. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle le fait en le jour de l'Annonciation, où l'on entend à la messe l'évangile de l'Annonciation, donc Gabriel qui dit « Je vous salue, non pas Marie, mais je vous salue pleine de grâce », comme s'il lui décernait une autre identité, qui est celle-ci, donc pleine de grâce, puisque pleine de grâce remplace le prénom de Marie. C'est nous qui l'ajoutons dans « Je vous salue Marie », mais sinon dans l'évangile selon saint Luc, l'archange Gabriel dit bien « Je vous salue pleine de grâce ». Donc, Marie va dire « Je suis l'Immaculée Conception », en le jour où l'ange Gabriel lui décerne une autre identité qui est celle de pleine de grâce. Et donc ces deux identités arrivent en confluence, sont en équivalence, et on comprend que Marie est donc immaculée sans tache parce qu'elle est pleine de grâce, parce qu'elle est graciée. En fait, elle n'y peut rien. Sinon, elle est comme nous, elle est nulle. Alors, elle est sauvée, elle est remplie. Depuis le départ, elle n'est pas marquée par le péché originel, par cet état de défiance vis-à-vis de Dieu, dont on hérite tous de nos premiers parents. Elle n'est pas marquée par cela. Elle est sauvée depuis le départ, mais elle est sauvée tout comme nous. Et donc, on n'a pas lieu de la craindre.
Et donc, c'est une promesse qui nous est faite, quelque part.
C'est une promesse qui nous est faite. D'abord, Marie nous dit « N'ayez pas peur de moi. J'ai beau être l'Immaculée Conception, je le suis par grâce. Donc, je suis aussi nul que vous, je ne vaux pas mieux que vous. » Voilà. Dans les litanies de Lorette, vous savez, elle est honorée trois fois comme vase, comme réceptacle de la grâce. Et bien sûr, c'est une promesse qui nous est faite. On est invité à se constituer aussi réceptacle. Et c'est saint Paul qui nous dit cela dans ses lettres. Cette fois, il parle du peuple chrétien comme d'un vase pour la grâce. Voilà.
En vous écoutant, Père Charles, on ne peut pas s'empêcher de voir combien le message de Lourdes consonne ou est dans l'Évangile, totalement ancré dans l'Évangile.
Oui.
C'est une chance pour la mission que d'avoir dans sa besace le message de Lourdes.
Ah, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai que toute apparition renvoie à l'Évangile. À chaque fois que je parle d'une apparition en particulier, ben je crochète l'Évangile et j'en profite pour annoncer Jésus, ça c'est certain. Oui, par exemple, je ne peux pas m'empêcher de...
Allez-y,
Donc... À la 9e apparition, donc le 25 février, Bernadette va se mouiller, va boire une eau rougeâtre, qui nous fait penser bien sûr au flux d'eau et de sang qui jaillit du côté du Christ. Et cette eau rougeâtre, elle la trouve dans le creux du rocher. On se souvient de Moïse, vous savez, qui frappait le rocher pour abreuver le peuple hébreu. Et saint Paul dira que ce rocher, c'est le Christ. En 1 Corinthiens 10, il dit « Ce rocher que Moïse frappait, c'est le Christ ». Et donc, Bernadette creuse le Christ, creuse le rocher, creuse le Christ, et obtient ce flux d'eau et de sang dont elle s'abreuve dans le but du réconfort des pauvres pécheurs. Donc on a évidemment tout ce parterre biblique qui est derrière cette apparition-là, par exemple, et qu'il faut crocheter, qu'il faut inviter dans la conversation quand on parle de cette apparition et puis des autres.
Donc on voit bien là qu'on est loin d'épuiser le sujet avec vous au cours de cette émission. Je vous propose de marquer une pause. Nous nous retrouvons juste après avec vous, Père Charles Formery, pour continuer à dialoguer. Si vous le voulez bien, vous nous parlerez de votre vie de prêtre, alors à Lourdes comme chapelain, mais avant, vous étiez dans le diocèse de Versailles, en paroisse, et puis peut-être quelques mots sur votre vocation.
Très bien, avec joie.
À tout de suite.
Présence
de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Nous avons la chance aujourd'hui d'entendre le témoignage du Père Charles Formery. Père, vous venez du diocèse de Versailles et vous êtes, pour quelques années, chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. 3 ans exactement, peut-être plus, mais on verra, ça ne nous appartient pas, ça ne
j'aimerais
vous
bien,
appartient
j'aimerais
pas.
Bien.
Alors, vous avez, avant de venir comme chapelain du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, œuvré en paroisse. Vous êtes issu, je l'ai dit, du diocèse de Versailles. On pourrait dire que vous avez été un prêtre vicaire en paroisse, tout simplement, depuis votre ordination en 2008.
Oui, c'est ça, oui. J'ai été tout le temps vicaire, c'est-à-dire aide du curé. Alors j'étais en paroisse tout d'abord à Poissy, et puis ensuite au Chênay, qui est une ville au nord de Versailles. Poissy étant au nord-ouest de Versailles, voilà, c'est là que Saint-Louis était baptisé, on a toujours son baptistère. Il signait Louis de Poissy, parce qu'il estimait être né là-bas, et c'était bien le cas. Voilà, donc après Poissy et le Chênay, j'étais à Versailles, dans l'hypercentre, à côté de la mairie de Versailles, dans la paroisse Notre-Dame des Armées.
Nous parlerons évidemment de cette expérience paroissiale de plusieurs années, quasi 17 ans,
16 ans. Non, parce que j'ai été aux études un certain temps après mon ordination, donc j'ai pas calculé,
d'années.
Mais 13 ans de paroisse.
13 ans de paroisse,
oui. Ouais.
Alors, votre ordination, c'est le 29 juin 2008, et avant d'arriver là, quel chemin ? C'est tout un chemin pour eux. Pour une personne.
Oui, bien sûr. Oui.
C'est un choix quand même important, radical, que de dire je veux être prêtre, faire le séminaire. C'est long le séminaire.
C'est long, oui, c'est très long. Oui.
Et puis tout renouveler son oui.
Exactement.
Et d'arriver au oui du 29 juin 2008.
Oui, c'est
ça
vrai.
Ça a été un chemin pour vous. Comment vous le voyez aujourd'hui ?
Alors c'est vraiment.
Des joies, des peines, des doutes et quoi ?
Si je le comprends comme le dit ma vocation, comme l'a dit l'évangile selon saint Marc, vous savez, il appela, il monte, il gravit la montagne, et il appelle à lui ceux qu'il voulait pour qu'ils soient avec lui et pour qu'il les envoie prêcher. Donc la mission des apôtres, c'est d'être avec Jésus. La mission de Jésus, c'est de nous envoyer prêcher. C'est son travail. Notre travail à nous étant d'être avec lui. Et Quand je regarde ma vocation, c'est bien cela qui s'est passé. C'est vraiment un désir d'être avec lui, d'un compagnonnage ad vitam avec lui. Et donc c'est vraiment, j'ai répondu à un désir profond d'être dans la compagnie de Jésus, si vous voulez. Désir que Jésus m'a inspiré.
À l'adolescence ?
C'est à l'adolescence, oui, 14 ans. Je reviens juste sur cette affaire de désir. La vocation n'est jamais autre chose qu'un désir que Jésus nous inspire. C'est pas un carcan qui vient tomber sur nos épaules, c'est Jésus qui nous fait désirer ce à quoi il nous appelle. Et c'est pourquoi si on désire pas être prêtre ou religieuse, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, Jésus ne nous y appelle pas. Par contre, ce désir peut débarquer d'un moment à l'autre. Et puisque c'est un désir, il n'y a rien de violent. Alors on a le droit de demander au Seigneur de le souffler fort, voilà, pour
oui, et puis de le confirmer.
Voilà, c'est ça,
et puis,
de le confirmer, oui.
Et donc vous, 14 ans.
14 ans, donc j'étais dans une école catho, et à la prière du matin, c'est une prière que le prof qui commençait la journée pouvait faire, et c'est un prof de maths, c'est une prière qui durait 30 secondes, et pendant cette prière, l'idée d'être prêtre m'est venue, qui ne m'était jamais venue auparavant, et avec cette idée, une grande paix, une grande joie qui ne m'ont laissé aucun doute. J'ai eu beaucoup de chance d'être comme flashé, de ne pas avoir à réfléchir. Le désir est arrivé comme ça, et il était fort, et il a duré.
Mais c'est un chemin de certitude ensuite?
Alors jusqu'à mon entrée au séminaire, oui. À 19 ans. Et alors après, eh bien, j'étais très heureux, mais j'ai commencé à avoir quelques doutes. Et puis, j'avais du béguin pour une jeune femme. Béguin que je ne lui ai jamais dit, d'ailleurs. Je la voyais de temps en temps. Et je me demandais si j'étais pas plutôt fait pour l'épouser, voilà. Et donc... écoute, j'ai joué le jeu du séminaire sérieusement. Je priais avec joie, tout en me posant la question. Et alors un jour, j'étais confirmé dans mon appel, et voici comment. C'était justement à Lourdes. Donc en 2004, donc 4 ans après être entré au séminaire, en 2004, je vais à Lourdes au mois d'août, quand Jean-Paul II y était, en tant que malade de Parkinson. Et je vais à Lourdes, moi, non pas pour le voir, mais pour que Jésus me dise clairement ce qu'il voulait. Alors quand j'arrive à Lourdes, eh bien, il y avait une foule considérable de jeunes, parce que Jean-Paul II attirait les jeunes. Et moi, je me mets dans ma bulle et je fais mon parcours de prière dans l'objectif de plaire à Dieu et qu'il me dise ce qu'il voulait. Donc je me confesse, je me baigne aux piscines, je fais le chemin de croix. Et à la fin du chemin de croix, j'étais encore en haut de la pente. Je vois en contrebas de la pente cette jeune femme, au moment donc où je disais à Jésus, maintenant dis-moi clairement les choses. Et donc je dis merci à Jésus parce qu'il me semblait que son message était très clair. Je la rejoins et on est content de se retrouver. On part à la pizzeria, c'était le soir, et chemin faisant elle me dit, je t'ai pas dit, voilà, je te présente machin. Donc c'était un gars hyper beau, on va se fiancer. Alors je les félicite tous les deux, puis en aparté je dis au Christ, j'ai pas compris ton message d'il y a 2 minutes, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai pas entendu de voix, mais j'ai compris qu'il me disait clairement, mon message c'est plutôt maintenant, elle est prise, si tu veux tu pourras être prêtre avec moi et ce sera bien. Et je me souviens d'avoir répondu oui, courageusement, un petit oui, mais par lequel le Seigneur a pu rentrer. Et au moment où j'aurais dû être très triste, j'étais très joyeux, donc surnaturellement. Donc Jésus m'a encore rappelé par le désir, en me faisant désirer ce à quoi il m'appelait. Et donc 3 ans plus tard, à la veille de mon ordination, j'étais complètement en paix, désirant être prêtre, et je suis toujours content de l'être.
Merci beaucoup de vous livrer comme ça, de vous donner des éléments de cette vie, de cette vocation, de cette trajectoire. Sachant que pour ceux qui nous entendent, évidemment que ça peut, à un moment, conforter,
oui,
confirmer.
Oui, oui, j'espère que mon témoignage...
Dire à l'un ou à l'autre, pose la question à Dieu.
Oui. C'est ça. Donc, pour résumer, je dirais que Jésus, si tu m'appelles, souffle en moi un désir fort de ce à quoi tu m'appelles. Voilà. Mmh. Alors, bien sûr, c'est un désir qui rencontrera d'autres désirs naturels, celui de se marier. Mais il faut que ce désir d'épouser le Christ ou d'épouser l'Église sublime ce désir naturel. Voilà, il faut qu'il soit plus fort, même s'il est tout à fait normal et important d'ailleurs que ce désir naturel soit là. C'est pas parce qu'il est là qu'on doit obligatoirement se marier. Par contre, si le désir de se consacrer souffle plus fort à ce moment-là, bien nous en prend d'y répondre positivement, parce que Jésus nous connaît bien. Voilà.
À grands traits, tout à l'heure, vous nous avez donné les éléments de votre parcours de prêtre, Poissy, Chennai, Versailles. Arrêtons-nous quelques minutes, pour les minutes qui nous restent, sur cette dernière expérience au sein d'une paroisse qui s'appelle Notre-Dame des Armées.
Oui, oui.
J'ai envie de vous poser la question de cette expérience-là à travers peut-être la question de la diversité et de l'unité de l'Église. Il se trouve que vous découvrez quand même une pastorale dans cette paroisse.
Oui.
Qui encore aujourd'hui vous tient à cœur et vous êtes peut-être recentré.
Oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est une paroisse qui était dédiée au rite tridentin. Donc, Monseigneur Aumônier a souhaité avoir une chapelle tridentine desservie par ses propres prêtres, quoi, par les prêtres de son diocèse. On ne peut pas dire que les prêtres lui appartiennent, mais Pardon, il faudra couper ça, Mathias. Ouais. je peux recommencer une minute en avant. Alors, c'est une paroisse, Notre-Dame des Armées, c'est une paroisse qui est dédiée au rite tridentin. Monseigneur Aumônier avait souhaité avoir une chapelle tridentine desservie par les prêtres de son diocèse, donc par des prêtres diocésains. Donc il a tapé dans son propre cheptel pour fournir cette paroisse.
Et vous faites partie de ceux qui ont été envoyés.
Et voilà, j'ai fait partie des trois qui ont été envoyés là. J'en étais très content. Je connaissais cette paroisse puisque, adolescent, je l'avais un peu fréquentée. J'avais mon père Spi qui était là à l'époque. Et donc c'est une paroisse où le ministère de prêtre est très unifié puisque le prêtre se consacre presque uniquement à la messe, aux confessions et au catéchisme. Le cathé qu'il fait lui-même, c'est un peu la particularité tradie, on pourrait dire. Et cela m'a beaucoup plu d'enseigner moi-même les enfants. Alors on le faisait un petit peu à outrance, hein, jusqu'à la fatigue, on peut dire. Mais on peut voir que ça portait du fruit, même si je pense qu'on faisait moins bien que beaucoup de dames cathées de la ville. Voilà.
Ce que vous vivez à Lourdes, au fond, est assez, pas proche, mais est assez dans la continuité, parce que vous êtes au service de l'enseignement et des sacrements.
C'est ça, je retrouve exactement la même chose, donc l'enseignement et puis les confessions. Voilà, pour ma plus grande joie. Et j'espère pouvoir importer ce système de simplicité dans ma paroisse future. Voilà, je sais pas, c'est peut-être un peu utopique. En tout cas, j'ai pu voir qu'à Notre-Dame des Armées, ça marchait. Voilà, les confessions, l'enseignement, les messes. Alors, bien sûr, on avait d'autres choses. Il y avait le scoutisme, il y en avait même beaucoup. Il y avait les équipes Notre-Dame, etc. Mais quand même, tout tournait autour de ces trois choses, la confession, la messe, le cathé. Et je pense que c'est une très bonne chose.
Et vous diriez que dans votre chemin de prêtre, ça vous a recentré vous-même, ça vous a redit qu'il était le cœur de la mission?
Oui, vraiment, le prêtre c'est dans le Christ l'époux de l'Église, et on n'est jamais tant époux qu'en réconciliant l'épouse à l'époux par le sacrement de pénitence. Donc effectivement, ça m'a infiniment conforté dans mon être prêtre.
Sachant qu'un écueil, ce serait de la dispersion, vouloir être partout dans toutes les réunions, s'occuper de tout pour un prêtre.
Oui, c'est vrai.
Un chef d'une PME, un chef d'une petite entreprise.
C'est vrai que c'est quelque chose qui nous guette tous. Alors il faut dire qu'à Versailles, là où j'étais, on avait la chance de pouvoir déléguer en fait toutes ces tâches. Alors mon curé était quand même très chargé. Par elle, hein. Et c'est son rôle évidemment, hein. Mais on est très aidé. Je ne sais pas si c'est possible de l'être comme on l'a été dans toutes les paroisses, mais voilà, je sais gré à beaucoup de paroissiens de s'être chargé de beaucoup de choses désagréables à notre place.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Père Charles Formerie. Je pense qu'on aura l'occasion de se reparler, parce que on sent que ce message de Lourdes avait encore beaucoup à nous en dire.
Mais oui.
Merci pour ce témoignage.
Avec grande joie. Avec grande joie, cher Mathias, ouais. Avec grande joie.
On se dit à très bientôt.
À très bientôt.
Et puis on sent un prêtre heureux à Lourdes.
Ah oui, vraiment.
Ouais. Donc bon vent et puis.
Sans problème.
Votre joie est communicative. Au revoir.
Merci. Au revoir, Mathias.
Présence
de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Présence à Auch 89.6.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le thème de la prochaine journée mondiale des communications sociales a été dévoilé. Préserver les voix et les visages humains. Un thème